Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur la fête de la Toussaint. Après avoir lu un extrait de la première lecture que nous avions entendue, tirée de l'Apocalypse selon saint Jean, nous tâcherons dans un premier temps de comprendre le sens de cette fête et dans un deuxième temps de réfléchir à ce que l'on peut savoir de la vie éternelle. Que fait-on dans la vie éternelle ? Mais commençons par entendre un extrait de la première lecture. Moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Fin de la lecture. Cet extrait nous met en présence d'une vision de saint Jean à qui il est donné de contempler la foule des bienheureux, ceux qui ont été sauvés par le Christ. On le dit, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont les sauvés, ceux qui sont entrés au paradis et qui s'approchent du trône de Dieu et qui contemplent sa face. Il nous est donné de voir une foule immense. Il n'y a pas véritablement de zoom qui soit mis sur l'un ou sur l'autre, de figures individuelles qui ressortent tout particulièrement. La fête de tous les saints, en effet, met en avant ce peuple immense de ceux qui ont accueilli le salut offert par le Christ. Car là est bien la pointe de la fête, la solennité de la Toussaint, est un hommage rendu au Christ, est un hommage rendu à la réalité du salut opéré par le Christ. Et l'on voit qu'ils sont nombreux, qu'ils sont une multitude, ceux qui ont bénéficié de ce salut. Le culte des saints lui-même est un hommage rendu au Christ. En effet, qu'est-ce que cela veut dire que nous soyons exaucés à travers l'intercession d'un saint? Imaginons, vous avez confié votre prière à saint François, au saint Padre Pio, à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et vous avez été exaucé. Cet exaucement ne veut pas dire qu'ils seraient devenus des demi-dieux ou des demi-déesses. Cet exaucement signifie que leur cœur est tellement uni au cœur de Jésus, désormais, que la puissance de Jésus peut se déverser sur le monde à travers leur cœur. C'est la puissance de Jésus qui se déverse sur le monde à travers leur cœur. Pensez un peu à un vitrail, lequel est traversé par le soleil et donne un rayon de lumière colorée à l'intérieur de l'église. Ce n'est pas le vitrail par lui-même qui éclaire. Sans le soleil, le vitrail n'éclaire rien du tout. Mais le rayon coloré qui entre dans l'église nous permet justement de dire « La puissance du soleil est passée par ce vitrail, comme la puissance du Christ est passée par le cœur de ce saint qui est désormais tout uni à lui. » Le culte des saints, bien loin de faire de l'ombre au Christ, au contraire rend témoignage à la réalité de son salut et des fruits de son salut. La contemplation de la réalité de ce salut réalisé par le Christ est là pour fortifier notre espérance et pour nous fortifier dans la vertu justement d'espérance, dans la confiance que nous sommes appelés nous aussi à la sainteté, que cette sainteté n'est pas réservée à quelques élites de gens triés sur le volet, mais à nous tous qui avons été baptisés. C'est à nous que s'adresse cet appel, et le Christ veut que la puissance de son cœur puisse aussi passer par nous. Mais cette affirmation de la réalité du salut du Christ nous pose une question, c'est de savoir, nous sommes appelés à partager la vie de Dieu dans le ciel, au paradis, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie éternelle ? D'une certaine manière, on aurait bien aimé avoir un peu une journée type. Qu'est-ce qu'on fait ? Le chant grégorien à 10h, visite des champs paradisiaques l'après-midi. On n'a pas ces informations-là. Cependant, il y a pourtant des choses que nous pouvons dire sur la vie éternelle, parce qu'elle est justement partage de la vie de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui contempler quelques éléments de la vie éternelle à partir d'une phrase du Credo qui nous donne une lumière sur la vie même de Dieu et qui, en regard, va nous donner une lumière sur notre vie au paradis. Cette phrase du Credo que je voudrais méditer avec vous, elle concerne l'Esprit Saint et elle est celle qu'il nous dit. L'Esprit Saint, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Cela signifie que lorsque on adore le Père, on adore aussi le Fils et l'Esprit Saint. Lorsque on rend louange au Fils, on rend aussi louange au Père et à l'Esprit Saint. Lorsque l'on fait monter une action de grâce à l'Esprit Saint, l'action de grâce monte aussi pour le Père et le Fils. Il n'y a pas de jalousie dans la vie divine. Le bien reconnu à l'un est aussi celui des autres. Et cela est une nouvelle importante, tant nous voyons que dans notre vie ordinaire, nous pouvons être blessés, attristés par la jalousie et l'envie. Cela nous arrive à tous de regarder notre voisin et de se dire « Tiens, j'aimerais bien avoir ce qu'il a », et parfois même d'en être un peu triste. « Ah là là, il a cette chose-là, j'aurais dû l'avoir moi aussi », ou avoir parfois même l'impression que s'il l'a, c'est que moi j'en suis privé. Et ce regard, nous pouvons l'avoir pour les choses, mais nous pouvons aussi l'avoir même par rapport à notre propre personne. On a fait un compliment à un tel, pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas fait à moi ? Est-ce qu'on ne me reconnaît pas, moi ? Et le bien que l'on a reconnu chez l'autre apparaît pour moi comme un reproche fait à moi, ou comme une non-prise en considération de ce que je suis. Cette jalousie ou cette envie entraîne chez nous beaucoup de colère, d'amertume, de tristesse. Nous en serons délivrés au paradis, car au paradis, nous nous rendrons compte que, bien loin d'être dans un champ, j'allais dire, où il n'y aurait pas suffisamment d'herbe pour tout le monde, ou dans un espace où il n'y aurait pas suffisamment d'oxygène pour tout le monde, et ce que tu as, je ne l'ai pas, au contraire, on se met en valeur les uns les autres. Ta présence, ton action, met en valeur ce que je suis. Ma présence, mon action, met en valeur ce que tu es. Et cela, même si je suis petit, cela même si je suis fragile, cela même si je suis humble. Une image de cette terre nous permet de l'appréhender. C'est la beauté qui naît du contraste. Nous avons tous pu apprécier la beauté qui naît du contraste, imaginons, d'un pull noir sur lequel on voit une chaîne dorée. En fait, il y a, j'allais dire, une grande surface de noir et une toute petite surface de doré. Et c'est l'assemblage des deux qui donne une beauté supplémentaire que la chaîne toute seule ou que le pull noir tout seul. L'effet de contraste a mis en valeur et l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un à l'exclusion de l'autre, mais l'un associé à l'autre donne une beauté plus grande. On pourrait prendre aussi une image musicale où, j'allais dire, imaginons que nous soyons le petit triangle, on pourrait avoir peur dans un orchestre de se dire « Mais quelle place peut-il y avoir pour moi ? Moi je ne suis pas puissant, je n'ai pas énormément de notes que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis par rapport au cuivre ? Eux ils en ont de la puissance, eux ils peuvent faire du bruit. » Et pourtant le compositeur dans sa symphonie a prévu un passage où tout le monde fera la place pour qu'on entende le triangle et que l'on se dise, c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait que l'on l'entende. Il fallait que lui intervienne et personne d'autre que lui ne pouvait intervenir à ce moment-là. Pour le dire autrement, au ciel, nous serons débarrassés de la jalousie et de l'envie pour découvrir et vivre l'harmonie, pour découvrir, vivre et partager l'harmonie. Mais nous pouvons encore tirer de cette même phrase avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, une autre lumière sur la vie divine. C'est que l'adoration va se poursuivre. Nous allons entrer dans cette adoration que les anges adressent à Dieu. Mais l'adoration, c'est une réalité qui s'exprime à partir d'un émerveillement. Si la vie éternelle est une vie d'adoration, alors c'est une vie d'émerveillement. Mais à quoi s'oppose l'émerveillement? Essayons de comprendre. L'émerveillement, ça s'oppose au fait d'être blasé, d'être lassé, de se dire « Oh, j'ai déjà vu ça, on tourne en rond. » L'adoration est une promesse que l'émerveillement se poursuivra. Il se poursuivra parce que nous sommes des créatures finies donc, qui allons contempler celui qui est infini, c'est-à-dire dont nous n'aurons jamais fini de contempler les merveilles, de découvrir de nouvelles merveilles. J'allais dire un peu à la manière de quelqu'un qui va se plonger dans la mer. À la fois, il est vraiment plongé dans la mer, il en profite, il se baigne, et en même temps, il n'a pas fait le tour de toute la mer. Il y a encore beaucoup à découvrir dans les rivages, au-dessus de l'eau, sous l'eau. La vie divine, bien loin d'être lassante, parce qu'elle est adoration et donc émerveillement, nous garantit surprise et rebondissement. En effet, la parole de Dieu, la promesse de Dieu est toujours plus riche que ce que l'on en avait déjà perçu. Je voudrais en prendre un exemple dans l'histoire du salut d'ailleurs. Repensez par exemple à saint François d'Assise quand, devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, il entend cette parole « François rebâtit mon église ». Au départ, il avait pensé que cette promesse ne concernait que cette petite chapelle délabrée, et puis voilà qu'au fur et à mesure, il va découvrir que son action, avec la grâce de Dieu, rebâtit l'Église et l'Église universelle, qui est toute transformée par la grâce de Dieu qui se déploie à travers la vie de saint François. Notre Dieu est un Dieu qui déploie au-delà de ce que nous avions imaginé, au-delà de ce que nous avions prévu. Et donc chaque fois que, quand nous pensons au ciel, nous disons « je vois pas du tout ce qu'on va y faire et j'ai bien peur de m'ennuyer », c'est qu'en fait nous avons une représentation infernale du ciel. Ce n'est pas le ciel que nous nous représentons à ce moment-là. Le ciel sera un lieu, un état de joie et d'émerveillement, où ce que nous découvrirons aussi, nous aurons la joie de le partager aux autres. Et les autres feront grandir eux aussi notre émerveillement en nous faisant découvrir ce qu'ils auront perçu. Au terme de notre enseignement, bénissons le Seigneur de nous appeler à partager sa propre vie. Demandons-lui de fortifier notre espérance, qu'elle soit notre lumière pour avancer sur le chemin de la béatitude. Je vous souhaite de beaux échanges.